Frères et sœurs, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2022. Et la guerre Russie-Ukraine bat son plein. Et la pandémie n'est pas encore finie. En tout cas, elle est en régression partout dans le monde entier. Néanmoins, les mesures sanitaires, en tout cas, sont progressivement levées de par le monde, même si dans certains endroits, les mesures sanitaires sont encore en place. Voilà, je dis tout ça simplement pour que les gens qui m'écouteront dans quelques années puissent se situer le contexte dans lequel je fais donc ce message. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde et nous donne la grâce vraiment de comprendre sa parole. Que toute la gloire lui soit rendue dans le nom de Yeshua. Amen. J'ai pris à cœur de relire Matthieu 24, de réexaminer Matthieu 24 compte tenu du contexte actuel de guerre en Europe, Russie, Ukraine, puisque les Européens ont tout fait pour qu'il n'y ait plus de guerre sur le continent européen. Mais oui, ils ont tout fait, ils ont cherché la paix, donc c'est le but même de l'Union Européenne, arriver à fédérer donc toute l'Europe, afin que les peuples puissent mieux se connaître, mieux s'entendre. Si les peuples ont un gouvernement central unique, il n'y aura pas de guerre. Et c'est l'objectif aussi de la mondialisation. C'est d'arriver à créer une paix artificielle. Au fait, c'est ça. Mais nous voyons que dans la Bible que selon les prophéties, la vision de Daniel, nous voyons que l'Europe aura une certaine fragilité, puisque l'Europe représente qui est la résurgence de l'Empire romain ancien, a une faiblesse, puisque on a vu le fer mélangé à de l'argile. Mais le fer ne peut jamais faire alliage avec l'argile. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, ils ont des faiblesses. Ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Ils ne peuvent pas arriver. Donc, c'est le Seigneur, l'Éternel, qui l'a voulu ainsi. Enfin, qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui aussi s'est passé à Babylone. Le Seigneur a introduit une faiblesse lorsque les hommes se sont arrogés le droit de fédérer tout le peuple, de fédérer le monde entier, de faire une union sacrée pour ne pas être dispersés. Donc, l'Éternel a confondu leur langue. C'était une faiblesse qui les a dispersés, donc, sur toute la terre. Donc, j'ai pris à cœur de reméditer, donc, le chapitre 24 de Matthieu. Et je voudrais vous nous apporter quelques éclaircissements. Peut-être que c'est des choses que vous savez déjà. Puisque avec cette guerre Russie-Ukraine, il y a beaucoup de choses qui ont fleuri sur Internet, hein, en tout cas sur YouTube et autres. Et puis beaucoup de gens en parlent. Et la dernière fois, il y a une dame qui m'a parlé des prophéties de Daniel. Hein, une dame qui m'en a parlé, une dame que je connais, qui n'est pas croyante du tout, qui, bon, c'est vrai, elle parle un peu de tout et de n'importe quoi, c'est-à-dire, elle est un peu mouvement ésotérico, machin bidule. Donc, elle m'a parlé des prophéties de Daniel, ça m'a beaucoup surpris. Cela veut dire que même les non-croyants, ceux qui n'ont pas forcément la foi en Jésus, vous voyez, examine aussi la Bible. Et cette crise, cette guerre Russie-Ukraine, d'abord, la pandémie a amené beaucoup de gens à acheter des Bibles pour voir les prophéties. Donc, ne pensons pas que les non-croyants ne sont pas attentifs à ça. Il y a des gens qui cherchent. Il y a des gens qui essaient de comprendre. même s'ils ne croient pas, ben, parce qu'ils ont peur. Ils ont entendu parler des prophéties de Daniel, donc avec cette guerre Russie-Ukraine. Donc beaucoup ont relu les prophéties de Daniel. Voilà, donc beaucoup en parlent. Il y a la pandémie aussi qui a fait ça, mais également cette guerre nouvelle. La Bible nous rend attentifs, je reviens à l'Union européenne, que lorsque les gens diront paix, 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 une ruse soudaine va les surprendre. Ce sera non seulement la fin de l'Union européenne, mais également la fin du monde, de la mondialisation que l'anti-messie est en train d'instaurer. Donc, je vais lire donc Matthieu 24 pour pouvoir se baser sur ça, pour parler des événements de la fin qui nous concernent tous. Comme Yeshua, je vais lire dans le Nouveau Testament messianique qui s'intitule La Torah accomplie. Ça s'appelle Habrit Hadasha, la nouvelle alliance. Voilà, la nouvelle alliance, Brit Hadasha. Ça s'appelle en hébreu, c'est comme ça, Brit Hadasha ou bien Habrit. Le ha, c'est l'article. La nouvelle alliance, Brit, la Habrit Hadasha. Donc c'est la Torah accomplie au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Donc je vais lire dans ça. Je choisis des versions différentes aussi pour vous faire découvrir ces versions, mais également pour apporter un autre éclaircissement. Comme Yeshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les édifications. Alors il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Amen, je vous le dis. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Vous voyez, les disciples ont posé trois questions auxquelles le Seigneur Jésus va, Yeshua, celui qu'on appelle Jésus, Yeshua, donc va répondre au chapitre 36, par exemple, pour parler du jour et de l'heure, pour parler aussi de sa parole, ainsi de suite. Donc voilà, il n'a pas répondu directement au questionnement des disciples, mais il va leur parler de certains signes qui vont précéder sa venue, voyez, qui vont précéder sa venue, qui vont précéder donc son avènement et qui vont précéder donc la fin du monde, la fin de ce monde-ci. D'accord, voilà, c'est ce qu'il va leur dire. Il ne peut pas leur dire quand exactement, mais il les a avertis que lorsque ils verront ces signes-là. Donc, c'est des signes précurseurs. C'est des prodromes. C'est des signes annonciateurs. Donc, je voudrais intituler donc ce message, ou bien cet enseignement. Bon, c'est un message. Que votre cœur ne se trouble point. D'accord. Oh, oui, que votre cœur ne se trouble point. Levez la tête et continuons de prier. Donc, Yeshua leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare. » Voilà, parce que l'avènement du Seigneur Yeshua sera précédé d'un déversement de puissance d'égarement, d'un déversement de puissance démoniaque, puisque l'anti-messie donc va s'emparer de ce monde, donc il va déployer une puissance telle, puisque le Seigneur va lui laisser la liberté, l'opportunité va lui laisser la liberté, hein, de plus en plus il y aura de la liberté. Nous le voyons aujourd'hui que les puissances maléfiques sont à l'œuvre dans ce monde de plus en plus. Que personne ne vous égare. Car un grand nombre viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Je rappelle à tout chacun. Bon, je le rappelle souvent parce que beaucoup de gens pensent et dans leur affirmation, quand ils parlent du Seigneur, du Messie, donc ils pensent que c'est, il a un nom et un prénom, Jésus-Christ. Normalement, le terme approprié, c'est Jésus le Christ, ou Yeshua HaMashiach, Yeshua le Messie, ou Jésus le Messie. Christ veut dire Messie. Christos en grec, Messie, Mashiach, que les Grecs ont traduit par Christos, loin, hein, et que les Français ont traduit par Christ. Donc, c'est pas un nom et prénom, parce que si nous voyons le Messie, c'est le titre de Yeshua. Et Yeshua, c'est sa mission. L'Éternel sauve, ou l'Éternel sauveur, c'est sa mission, ça. Et son titre, c'est Messie, le Messie. Il est le Messie, il est loin de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur cette terre, dans ce monde. Il est le miroir de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, puisque l'Éternel Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a vu, n'a jamais vu, qu'aucun œil ne verra. Comprenez? Donc, Yeshua est son image, est son miroir. C'est pourquoi il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Voilà. Comprenons bien les choses. En tout cas, c'est ma pensée, hein. C'est ma pensée, c'est ma conviction. Je peux me tromper, je ne connais pas tout. Comme je le dis toujours, je ne connais pas tout. Quand un grand nom viendra sous mon nom, et on le voit encore aujourd'hui, ils égareront beaucoup de gens. Viendront sous son nom. Voilà. Viendront sous son nom qu'ils ont été envoyés par le Messie. Certains disent qu'ils sont carrément le Messie eux-mêmes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà, nous allons un peu nous attarder sur ce verset, et je continue de lire le verset 7. Une nation se levera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à l'affliction et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup seront une occasion de chute, se trahiront et se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront et égareront beaucoup de gens. Et parce que l'absence des enseignements de la Torah se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui-là même qui montrera une patience constante et persévérante jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle, la même du règne, sera proclamée à haute voix dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je m'arrête ici sur le verset 14. Nous voyons que Yeshua n'a pas répondu directement à ses disciples aux questions posées, mais il a annoncé une série de signes qui va précéder une série, donc qui va précéder son avènement et la fin de ce monde-ci. Donc, je pourrais dire d'emblée, lorsqu'on lit le texte, que les signes ne sont pas chronologiques. D'abord, les signes ne sont pas chronologiques. C'est même pas parce qu'il va y avoir des guerres et après, il va y avoir une nation, c'est le cas, une nation. Après, c'est les tremblements de terre, ainsi de suite. Mais non, les signes ne seront pas chronologiques, mais tout va venir indifféremment. Tout va être reparti d'une manière inégale sur la terre, dans le monde entier. Donc, il a parlé de guerre et de bruit de guerre. Et nous avons eu beaucoup de guerres dans le monde entier, beaucoup de bruit de guerre. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que il a dit que quelque chose, le verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Pourquoi? Yeshua parlait des douleurs de l'enfantement, puisqu'il a déjà dit dans d'autres versets que sa venue sera comme des douleurs de l'enfantement, Voilà, et nous savons tous que quand le travail, quand une femme va accoucher, le travail commence petit à petit. Donc la femme commence à sentir de petites douleurs et la douleur va aller en s'accroissant. Donc il y aura une évolution crescendo jusqu'à l'acmé de la douleur où l'enfant est enfin expulsé et la femme est soulagée, le mari et la sage-femme aussi, tout le monde est soulagé. Et cette femme va retrouver le sourire. Yeshua a donné cette image pour nous montrer que tous ces événements auront une croissance, ce qui fait que les précédents signes ou bien catastrophes seront comme des cacahuètes par rapport donc aux signes suivants. D'accord? Voilà. Donc ces signes qui vont arriver n'auront pas d'égal, n'auront pas de comparaison possible avec les signes précédents. Hein, c'est comme on a parlé de la Première Guerre mondiale, a fait des destructions, mais les destructions occasionnées par la Deuxième Guerre mondiale sont plus importantes, de même que la Troisième, voilà, ça va être vraiment dévastatrice, parce qu'aujourd'hui, toutes les nations ont accumulé vraiment de la puissance militaire telle que avec une seule bombe, un pays sera complètement rasé, paralysé, et voilà. Et puis aujourd'hui, on peut lancer une petite bombe nucléaire dans l'atmosphère d'un pays sans toucher le sol, et ce pays sera complètement paralysé. Tout sera paralysé dans le pays. Voilà, avec la bombe qui va exploser simplement dans l'atmosphère, mais tout sera paralysé, tout ce qui est électronique, tout sera complètement paralysé. Voilà, on peut le faire aujourd'hui. Et je suivais un documentaire la dernière fois, il paraît que la Russie a une bombe dont le rayon d'action est de 10 000 kilomètres. Donc ce qui fait que si cette bombe tombe par exemple à Paris, mais ça va aller, son rayon d'action va aller jusqu'en Afrique, même dépasser le Togo, ça va aller jusqu'à 10 000 kilomètres. Vous imaginez? Lomé-Paris fait au moins 6000 kilomètres. D'accord? Donc 10 000 kilomètres, donc ça va au-delà. Vous voyez la puissance de ces bombes-là, de ces armes. Donc que nous allons avoir des guerres et des bruits de guerre. Nous en avons partout dans le monde aujourd'hui. Si nous voyons que la guerre du Congo, par exemple, qui tue toujours, hein, qui tue encore, où les civils ont payé le prix fort. Et cette guerre a plus tué que la Syrie. Mais personne n'en parle aujourd'hui. Hein, personne n'en parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que, bon, c'est une guerre, c'est chez des peuples arriérés, sous-développés, donc c'est parce qu'ils ne sont pas civilisés qu'ils se tuent entre eux. Mais nous voyons que l'être humain n'a pas changé puisque les mêmes guerres se passent un peu partout, des guerres ethniques. Ici, Russes contre Ukrainiens, par exemple, ça se passe ici. L'être humain n'a pas changé. L'être humain a changé son environnement, mais sa tendance au péché, sa méchanceté, puisque dans le livre de Genèse, le chapitre 6, l'Éternel a fait le constat que chaque jour, le cœur de l'être humain se tourne vers le mal, a tendance à aller vers le mal. Il suffit de voir comment, en cas d'émeute, en cas de groupe, hein, comment l'instinct de méchanceté animale se réveille chez les gens, alors que ces gens pris individuellement ne seront pas dangereux. Mais quand ils sont en groupe, ils se sentent poussés par un instinct destructeur. Un instinct destructeur. C'est la dynamique de groupe. ce péché se révèle. Donc vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Et nous l'entendons aujourd'hui. Bon, la guerre est plus proche de nous aujourd'hui en Europe. Hein. Mais cette guerre, la Bible nous dit de gardez-vous d'être troublés. Il est vrai que l'ours représente, la Russie est représentée par l'ours. Et que l'ours aujourd'hui est en marche, nous voyons que les pattes de la bête de l'Apocalypse, d'une des bêtes, c'est des pattes d'ours, n'est-ce pas? La bête a des pattes d'ours. Donc aujourd'hui, ben, ça lui permet de marcher. L'ours est en marche plutôt aujourd'hui. C'est la Russie. L'ours est en marche. Et nous avons vu que aussi cette bête a aussi intégrer la puissance du léopard, n'est-ce pas? Oh, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un frère, je pense que c'est Ivry, non, un Américain, qui a fait une série de vidéos. Donc, si je le trouve, je vais vous l'envoyer, mais je ne sais pas. Je pense que vous pouvez le trouver. Si quelqu'un trouve ça, il n'a qu'à me faire signe et me l'envoyer par WhatsApp. Oui, ce monsieur avait fait une vidéo sur l'Allemagne, que c'est l'Allemagne représente le léopard, que le léopard représente l'Allemagne. Et avec cette crise, nous avons vu que l'Allemagne subitement veut se réarmer. Donc l'Allemagne a injecté 100 millions d'euros pour moderniser son armée, pour équiper son armée, pour que l'armée allemande soit prête au combat, puisque avec la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne n'intervenait plus dans avait été bridée militairement selon les accords qui ont été signés avec les États-Unis, puisque l'Allemagne avait perdu la Deuxième Guerre mondiale, et que l'Allemagne n'intervenait plus en dehors du territoire européen. Mais nous voyons depuis quelques années, les forces allemandes sont allées en Afghanistan, au Mali, un peu partout dans le monde. Donc, et avec cette crise-là, le chancelier a dit qu'il va moderniser, il a injecté 100 millions d'euros. Donc c'est passé, ou bien 100 milliards, je ne sais plus, mais c'est presque passé inaperçu, mais c'est quand même un signe que les nations se réveillent. Les nations se réveillent, mes frères et sœurs. Les nations se réveillent, se préparent pour la guerre. Parce que pour que les gens puissent s'affronter, il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils soient prêts. Il faut que tout le monde s'arme, parce que la troisième guerre qui va venir, la guerre qui va venir, qui verra l'intervention de Yeshua, ce sera une guerre terrible qui ne va pas durer, mais ça va être une guerre dévastatrice. Donc, mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre chose à faire que de demeurer en Yeshua. Nous n'avons pas la force, nous ne pouvons pas nous protéger. Et donc, il n'y a que Yeshua seul qui pourrait nous protéger. C'est pourquoi il dit à ses disciples de ne pas être troublés. Parce qu'il faut que cela arrive. Il faut que les prophéties s'accomplissent. Il a aussi dit concernant son cas, son propre cas, il a dit, il faut que les prophéties s'accomplissent. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Et ça va s'accomplir parce que c'est le Seigneur Yeshua qui tient les règnes de ce monde. C'est l'Éternel qui tient les règnes de ce monde, qui dirige toutes choses. Les gens pensent que ce monde n'est plus dirigé, que Dieu a été exclu de ce monde. Mais non, il dirige toutes choses. Et toutes choses ira au but qu'il a fixé, quel que soit ce que fera les êtres humains. Donc les nations s'arment. Et cette crise Russie-Ukraine va amener les nations à s'armer. Parce que les Européens se sont rendu compte qu'ils sont faibles, au fait, militairement par rapport à la Russie. C'est vrai qu'ils ont fait appel aux Américains, mais les Américains les manipulent quand même. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un troisième larron. Il n'y a pas que l'Amérique et la Russie. Le troisième larron, c'est la Chine. Elle observe, mais peut-être qu'elle caresse l'espoir que les deux grands-là vont s'affaiblir. Et que elle, après, elle prend le pouvoir, elle devient numéro un du monde. Donc cela. Mais les Bibles disent, ce ne sera pas encore la fin. Cette guerre Russie-Ukraine ne va pas déboucher, à mon avis, hein, sur une troisième guerre mondiale, parce que les nations ne sont pas prêtes. Il faut que l'ours ait des alliés également. Il faut que l'ours ait des alliés. Hein? La Russie n'a pas encore beaucoup d'alliés militairement intégrés à elle, puisque beaucoup disent que c'est la Russie est Gog et Magog, dont on a vu que Gog et Magog est une coalition de nations. Il y a beaucoup de nations qui sont intégrées et que la Russie va entraîner et pour s'emparer du plus beau pays, c'est-à-dire Israël, va attaquer Israël. Et dans certaines vidéos que j'ai regardées, il y a aussi chez M. Poutine une dimension religieuse également que ces journalistes ont pointé parce que ils trouvent que l'Occident est décadent puisque l'Occident autorise tout et n'importe quoi. Il y a une licence, des mœurs ainsi de suite et qu'il y a cette dimension aussi l'ont poussé à intervenir pour que la licence ne soit pas à ses portes. Il n'y a pas que le volet militaire, mais il y a aussi le volet religieux dans sa quête. Peut-être que il va vouloir s'emparer de la terre d'Israël parce que Israël serait, ou une partie serait dans la décadence, parce qu'il y a quand même une parole, je pense que c'est dans Ésaïe, peut-être que je me trompe, hein, où Israël est comparé à Sodome et Gomorre. Et aujourd'hui, à Tel Aviv, si vous allez en Israël, bon, c'est la capitale de toutes les licences sexuelles et autres. Hein, et autres, je n'en dirai pas plus. Vous savez que le Gay Pride même a été organisé à Jérusalem. Donc voilà, donc Sodome et Gomorre. Donc une nation s'élèvera contre une autre. Et nous le voyons, un royaume contre un royaume, un peuple aussi contre peuple, ethnie contre ethnie. Et nous avons vu ce qui s'est passé en Ukraine, que les Africains ou les Noirs ont eu des problèmes, ont été empêchés de fuir. Et c'est aussi une guerre, ça. Peuple contre... Ah oui, vous n'êtes pas blanc, vous êtes des Africains. Les Ukrainiens d'abord, mais pas vous. D'abord les Ukrainiens. Vous pouvez rester et périr. Donc, d'abord les Ukrainiens. Voilà ce qui s'est passé. D'abord les Ukrainiens. Hein? Voilà ce qui s'est passé. Et ça a scandalisé. Mais ça n'a pas trop scandalisé les Européens. Hein? Voilà. Donc, il y a aussi cette dimension. Peuple contre peuple, ethnie. C'est dans le grec, c'est ethnie. Donc, ethnie contre ethnie, pays contre, voilà, les royaumes vont s'entrechoquer malgré le fait que ces nations et ces pays vont désirer faire la paix comme les Européens. Donc le fait même que la Russie ait attaqué l'Ukraine a énervé beaucoup de gouvernements européens parce que ils ont tout fait pour qu'il n'y ait plus de la guerre en Europe puisque la guerre c'est pour les sauvages, non? Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour les sauvages. Mais non. Il y aura en divers lieux des famines, des pestes. Voilà, on l'a vu avec le coronavirus et des tremblements de terre. Il y a au moins 500 000 à 1 million de mini-séismes par jour. Hein. Vous savez ça? Voilà, mais il y aura des tremblements de terre. Les volcans vont... On a eu quand même des éruptions volcaniques avec... des tremblements de terre. Donc tout cela n'est pas chronologique, mais il y en aura partout. On a eu la famine en Éthiopie, en Somalie, il y a aussi la famine aujourd'hui, toujours en Afrique, hein, il y en a en Asie, il y en a. Hein, et certaines personnes ont annoncé la famine en Europe. Effectivement, depuis cette guerre, dont le prix des denrées a augmenté, le prix de l'essence, le prix du baril de pétrole a augmenté, et bientôt il va avoir des problèmes financiers. Je disais dans un précédent message que l'Ukraine et la Russie sont des greniers à blé, des greniers à blé et que cette guerre-là va priver bon nombre de pays de recevoir les exportations russes. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, tout va aller crescendo de plus en plus lorsque le Seigneur Jésus, sa venue, va s'approcher. Comme je le disais tout à l'heure, les événements seront de plus en plus intenses, de plus en plus catastrophiques, de plus en plus meurtriers. D'accord? Voilà, c'est ce que la douleur de l'enfantement veut dire. Hein? Vous savez tous que le travail commence doucement et finit très fort pour pouvoir expulser le bébé. Hein? Le bébé. Voilà, c'est ça. Donc, les douleurs. Donc, il y aura un accroissement de souffrance, de phénomènes catastrophiques. Et ces phénomènes atteindront une ampleur sans égale dans les temps de la fin. Ouais, Yeshua lui-même l'a dit, que si ces événements ne sont pas abrégés, au moins tout le monde succombera. Donc, Yeshua viendra pour mettre fin à cette folie meurtrière de l'humanité. D'accord? Donc, les heures ou les jours précédant son avènement, d'accord, cet accroissement de souffrance sera d'une ampleur terrible, que sera le signal de l'arrivée imminente du Messie, d'accord, venu pour juger l'humanité pécheresse et pour établir son royaume de 1000 ans. Il viendra pour ça. Donc, les choses vont s'accroître. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui ne sont que des cacahuètes par rapport à ce qui va survenir. Même avec cette crise sanitaire, nous verrons également d'autres crises sanitaires, d'autres pestes, d'autres épidémies qui fera que les précédentes épidémies et autres souffrances seront des douceurs. Hein, seront des douceurs, hein, je pèse bien mes mots. Seront des douceurs par rapport donc à ce qui va arriver, hein, par rapport à ce qui va arriver. Donc, mes frères et sœurs, réveillons-nous et soyons vigilants. Ne dormons pas. Hein, d'accord, ne dormons pas. Hein, d'accord, soyons vigilants, continuons de prier, d'obéir à la parole de Dieu. Cherchons à marcher avec lui, cherchons une intimité avec lui. D'accord, cherchons une intimité avec lui. Ne nous laissons pas à détourner par ces événements. Ne regardons pas ces événements. D'accord, c'est pourquoi il a dit à ses apôtres de lever la tête. Lever la tête. C'est un signe de vigilance, de lever la tête, parce que Yeshua est le Seigneur qui vient de lever la tête. De lever la tête. Donc, et aussi, dans le verset 9, on nous dit, on vous livrera à l'affliction, l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Oui, vous savez, cette prophétie, c'est déjà à loin 70, puisque Yeshua parlait aux Juifs, hein, puisqu'il n'y avait pas, un Français à cette époque-là, à Jérusalem. Il n'y avait pas un Togolais, ni un Béninois, ni un Russe, ni un Ukrainien. Il parlait à des Juifs. La prophétie est accomplie partiellement en l'an 70, quand le temple a été détruit. Et les chrétiens persécutés, et les juifs persécutés et dispersés aux quatre coins du monde. Il y a eu des guerres ainsi de suite. Ce ne sera pas la fin. D'accord? Et parce que les prophéties, nous devons le savoir, que les prophéties ont des accomplissements partiels pour nous avertir aussi jusqu'à l'accomplissement ultime. Sachons-le, d'accord? Sachons-le. On vous livrera à l'affliction. Vous voyez, beaucoup de gens pensent qu'il n'y aura jamais de persécution en Europe parce que nous sommes en démocratie, mais méfions-nous parce que peut-être qu'il n'y aura pas une persécution directe comme cela, mais les lois, les lois, on l'a vu avec cette crise sanitaire, ceux qui n'ont pas voulu obéir aux directives du gouvernement, vous avez vu ce qui est arrivé. avec toutes ces lois, ainsi de suite, même ce qui est arrivé à la Russie avec ses sanctions, ainsi de suite. Mais on aura de plus en plus des lois antichrétiennes, des lois antichrist, puisque l'anti-messie va s'emparer de ce monde. Son système est déjà en place. Il suffit de plus en plus, hein. Voilà, puisque même en Europe ici, Dieu, le thème Dieu est expulsé de tout maintenant, de tout, de tout, de toutes les conversations. Lorsque tu parles de Dieu, on va te traiter de fou, on peut te traiter d'arriéré mental, ainsi de suite. Voilà, la notion de Dieu maintenant est partie, les gens ne veulent plus. C'est la laïcité, les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Même l'Union européenne a refusé de faire référence dans sa constitution à l'Éternel, à Dieu. Même si l'Europe a des racines judéo-chrétiennes, culturellement, les pays européens ne sont pas chrétiens, mais il y avait une culture chrétienne. Ici, même ça, c'est fini, c'est l'apostasie, c'est le vide. C'est pour cela même que beaucoup d'Européens, beaucoup d'Occidentaux sont désorientés aujourd'hui et se tournent vers des religions païennes, vers des religions orientales ou bien vers des pratiques spirituelles africaines et autres, et hindous, ainsi de suite. Il y a des gourous hindous qui viennent ici ramasser beaucoup d'argent. Hein. Si tu veux être plus proche du gourou, ben, tu dois payer le prix. Comprenez, si tu veux être loin, tu payes 50 euros, 100 euros, mais si tu veux être prêt, prendre une photo avec lui, mais tu payes fort. Alors que ça n'amène à rien du tout. Rien. C'est de la vanité, des vanités même. Dans ces religions, il n'y a que en Jésus, en Yeshua seul, qui a la vie. Je disais dans un précédent message que tout le monde a l'existence, puisque c'est Dieu, l'Éternel, Elohim, qui donne l'existence. Mais, et ceux qui ont la vie, c'est ceux qui croient en Yeshua. C'est pas la même chose. Donc, les lois vont devenir de plus en plus antichrétiennes. Et vous savez que déjà, certaines parties de la Bible sont déjà sur les sellettes, surtout les parties qui parlent de la licence sexuelle, qui parlent des abominations sexuelles. Déjà, je pense que de plus en plus l'Union européenne qui prend du pouvoir, puisque la Commission européenne n'est pas élue, hein. Ce sont des gens nommés, mais cette Commission européenne a pu interdire que certains médias russes diffusent de nouveau dans l'Union européenne, et cette Commission européenne a décidé de débloquer 400 et quelques millions d'euros pour acheter des armes au lieu à l'Ukraine. Au lieu de travailler pour la paix, ils mettent de l'huile sur le feu. Vous voyez, c'est vraiment contradictoire. Et ces 400 et quelques millions d'euros, combien de pauvres ça peut nourrir, combien de pauvres, combien de solutions ça peut apporter aux problèmes des uns et des autres. Vous voyez, mais on a préféré acheter des engins qui tuent, hein, que de nourrir la population ou bien de régler certains problèmes dans le monde. Donc, on vous livrera à l'affliction. Les chrétiens seront persécutés. Et les chrétiens sont déjà persécutés dans beaucoup de pays islamiques, musulmans, même en Érythrée. C'est un pays quand même musulman, mais il y a beaucoup de chrétiens orthodoxes. Donc, prêcher, croire dans un autre évangile qui n'est pas conforme à la doctrine orthodoxe, voilà, tu es considéré comme un ennemi, comme un apostat, et tu es persécuté. Donc, tous les chrétiens évangéliques qui ont une foi ferme sont persécutés. Donc, par ces lois qui vont devenir de plus en plus liberticides, et qui vont vouloir nous contrôler, qui vont vouloir nous dire ce qu'il faudrait croire, vous savez. Donc, la persécution va venir pour ça. Hein, la persécution va venir pour ça parce que l'ennemi va chercher à étouffer la vraie foi. Or, quand ces lois seront de sortie, que feras-tu, mon frère? Comment te comporteras-tu, ma sœur? Est-ce que tu vas suivre les directives des gouvernements ou bien tu vas dire que tu veux vivre selon la parole de Dieu. Est-ce que tu vas suivre ces gouvernements ou bien tu vas dire que tu veux vivre selon la parole de Dieu? Voilà, c'est un dilemme qu'il faudrait, parce que la Bible nous dit dans Timothée, hein, dans 2 Timothée 2, 19, on nous dit, cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Vous voyez, ce verset nous enjoint que lorsque nous sommes en Yeshua, nous devons vivre conformément à sa parole. Or, les gouvernements vont vouloir nous obliger à faire du mal, vous voyez, à faire du mal ou bien à vivre conformément à leur politique. Et les choses vont aller progressivement, mes frères. Ce sera le syndrome de la grenouille ou de l'escargot ou du crabe, hein, où progressivement l'eau va chauffer et nous serons dans le chaudron. Que feras-tu, ma sœur? Que feras-tu, mon frère? Est-ce que tu vas dire que, ok, je vais me détourner de la parole de Dieu pour m'adapter à la loi, ou bien que feront les assemblées, les églises? Aujourd'hui, ils filent le parfait amour, ou bien elles filent plutôt le parfait amour avec le gouvernement qui les cajole, ainsi de suite, mais bientôt ça va être de plus en plus difficile. 2 Timothée 3:12 nous dit: du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Vous avez vu? Tous ceux qui, donc, comme les chrétiens, les vrais chrétiens vont vouloir vivre selon la parole de Dieu, automatiquement, ils seront contre le système antichristique, ils seront persécutés. Si tu veux vivre, ouais, c'est ça qui va se passer. Progressivement, les lois vont venir, et ces lois dans l'espace européen, ces lois seront contradictoires à la parole de Dieu. De plus en plus, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Donc, nous serons, automatiquement, nous serons haïs parce que, ils vont dire que, ah oui, c'est eux qui nous empêchent de tourner en rond. Ben oui, nous serons les empêcheurs de tourner. Et un exemple s'est vu dans cette crise sanitaire. Je ne parle pas, je n'ai rien contre qui que ce soit, mais je prêche la parole de Dieu. Vous voyez que cette crise sanitaire, les gouvernements ont cherché à diviser le peuple, malgré le risque de guerre civile que ça pourrait entraîner. Mais c'est ce qui va se passer. On a vu que une partie des vaccinés s'en sont pris aux non-vaccinés. Et les gens m'ont dit, il faut les mettre en prison, il faut les enfermer même. Quelqu'un a dit qu'il faut les tuer, non? Que fera? Oui, il y a eu des paroles quand même assez sévères, assez vraiment catastrophiques, assez méchantes vis-à-vis des non-vaccinés. Vous avez vu? Et c'est ce qui va se passer, que les gouvernements vont chercher à susciter la haine des chrétiens. C'est ça. Donc, le pays va être divisé en deux catégories, les chrétiens et ceux qui suivent les directives du gouvernement, ce qui fait que ceux qui suivent les directives du gouvernement vont persécuter les chrétiens, seront haïs. C'est arrivé déjà à Jérusalem où ceux qui suivaient plutôt Yeshua ont été persécutés par les autres religieux. N'est-ce pas? Ça va aussi arriver. Nous devons savoir. Alors, on nous dit également, c'est à cause du nom de Yeshua que nous serons haïs, puisque la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, durée, tous ceux qui veulent vivre pieusement, avec piété dans le Christ Jésus, seront persécutés. Ceux qui veulent être fidèles à l'Éternel, à la parole de Dieu, seront automatiquement persécutés en confrontation avec l'autre bloc. Et c'est là où il sera très dangereux pour un chrétien de faire des compromissions, hein, de faire des compromissions. C'est ça. Il ne faut pas. Tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Mais les gens, ici, parce qu'on nous dit que alors beaucoup seront une occasion de chute. Beaucoup seront une occasion de chute. Pourquoi? Parce que ces gens vont vouloir faire des compromis, vont vouloir ruser avec les lois qui seront mises en place, ainsi de suite. Donc, ils seront une occasion de chute. Ils vont trahir et ils se haïront les uns les autres. Même des religieux vont dire, ah oui, vous vous exagérez, non, ça c'est pas grave ça, on peut vivre comme ça, on peut s'accommoder avec les lois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, voilà. Ils se trahiront, ils se haïront dans les assemblées aussi, il y aura la division. Vous avez entendu que Yeshua dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, parce que sa parole va séparer les assemblées, va séparer les familles, va séparer les peuples, va séparer les pays en deux catégories. Hein? Donc, il y aura même des religieux qui seront contre ceux-là qui voudront vivre pieusement dans le Christ Jésus, qui voudraient obéir donc à la parole de Dieu. On va les haïr, on va les trahir, on va les, voilà, n'est-ce pas? Parce que vous savez que dans l'église ou bien dans le monde entier, vous savez, avec la parabole de l'ivraie, nous comprenons que il y aura l'ivraie, c'est des religieux, hein. Je pense que c'est des religieux, c'est ceux qui ne croient pas tellement, c'est des religieux, et le vrai blé, c'est les vrais chrétiens, les vrais croyants en Yeshua, d'accord? Les vrais disciples de Yeshua, c'est ça. Or, si l'ivraie est semé dans le champ de blé, vous voyez, le blé risque d'être étouffé un peu, le blé ne va pas être très productif, d'accord? Donc, il va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes pour les vrais chrétiens de survivre aisément leur foi, mais également aussi de prêcher la parole, ainsi de suite, de faire de nombreux disciples. Donc, les uns se trahiront. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront. Ils vont dire que non, Dieu m'a révélé, l'Éternel m'a parlé, comme aujourd'hui aussi. Mais ça va être encore plus fort, puisque les choses vont aller en grandissant. Les choses vont aller crescendo. Ces faux prophètes, on voit maintenant qu'il y a des gens qui disent qu'ils prient et qui mettent un fagot de bois et allument. Ils prient sur le fagot de bois et le feu qui s'allume. Bon, voilà. Donc, des faux prophètes s'élèveront. Ils égareront beaucoup, beaucoup de gens. Et on le voit avec l'évangile de prospérité, avec d'autres évangiles, avec les gens qui font des prophéties, mais qui ne se réalisent jamais, jamais, jamais. Après, ils viennent dire, ok, c'est parce que vous n'avez pas beaucoup prié. La séduction sera à son comble parce que l'ennemi sera libéré sans entrave. Sans entrave, il est même dit que l'anti-messie va vaincre les saints. Ben oui, va vaincre les saints, vous savez. Va vaincre les saints. Donc, parce que l'absence des enseignements de la Torah se sera accrue. Voilà, la parole de Dieu n'aura plus de sens pour les gens. Les gens seront dans la confusion parce qu'on les a habitués à la haine de la parole de Dieu. À la haine de la parole de Dieu. On va les conditionner. On va les conditionner progressivement. Et c'est ce qui se passe. On va les conditionner. On va essayer de restructurer leur cognition. La cognition, c'est la faculté, l'acte de connaître. D'accord? Donc, la cognition, c'est le processus par lequel... C'est un processus psychologique par lequel un organisme acquiert la conscience des événements et des objets de son environnement. Donc, l'anti-messie avec son système va vouloir conditionner les gens, leur retourner le cerveau pour les amener donc à adopter un comportement différent, à renoncer à leur foi. D'accord? Et on va interdire de plus en plus l'enseignement de la parole de Dieu. Des écritures va être limité, Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yeshua a dit que la nuit vient où personne ne pourra travailler. On l'a vu dans cette crise sanitaire, lorsque les églises, les bâtiments d'église ont été fermés, certains chrétiens étaient déboussolés parce que leur centre, leur référentiel était ces bâtiments d'église-là. Il faut que l'église pense, réfléchisse. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont fait, mais sûrement qu'ils l'ont fait, puisque l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons examiner les événements. L'Éternel Dieu est en train de nous prévenir de ce qui va advenir, mes frères et sœurs. Voilà, parce que c'est le commencement des douleurs, cette pandémie, alors que beaucoup de gens, oh non, la pandémie va disparaître, ainsi de suite, on va retrouver la vie d'avant. C'est faux, on ne retrouvera plus la vie d'avant. Ça, c'est clair et net, mes frères et sœurs. D'accord? Donc, nous devons nous accrocher à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que il va avoir, donc, une régression de l'enseignement, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées. C'est des réjouissances, on danse, on chante alléluia, il y a des prophéties, c'est la prospérité, on veut avoir de l'argent, de l'or, ainsi de suite, c'est tout ce que les gens veulent, mais ils ne veulent plus écouter la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Ils ne veulent plus écouter la prédication de la croix, ils ne veulent plus l'écouter. Ils ne veulent plus l'écouter, mais l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, mais on parle des chrétiens, on parle des croyants en Yeshua, pas du monde. Le monde, son amour, le monde n'aime pas déjà l'Éternel Dieu, puisque la Bible nous dit que l'amour du monde est inimitié contre l'Éternel Dieu. Donc, c'est de l'Église dont on parle, des croyants, on parle des croyants ici, donc l'absence des enseignements de la Torah, l'ensemble des enseignements de la parole de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui enseigne, on l'a vu la dernière fois, que dans un de mes messages, les gens n'auront plus un vrai Dieu, les gens ne vont plus distinguer l'Éternel, ne vont plus faire la discrimination entre l'Éternel Dieu et autre divinité, autre spiritualité, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'enseignement. Pour qu'il y ait de l'enseignement, il faut qu'il y ait des enseignants. Non, il faut que ces enseignants soient reliés intimement à l'Éternel Dieu par le Saint-Esprit. Voilà. Mais quand il n'y a pas ça, bon, comme la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas d'enseignement, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi ou bien s'il observe les enseignements ou s'il obéit à la parole de Dieu. Mais celui-là même qui montrera une patience constante et persévérante jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. D'accord, mes frères et sœurs, levons-nous, veillons et prions, ne restons pas les bras croisés, ne restons pas, ne laissons pas les événements nous dominer. Ces événements, c'est pas encore la fin. Même si nous devons mourir, mourons dans les mains du Seigneur, mourons dans ses bras, dans les bras du Seigneur Jésus. N'ayez pas peur de la mort. Il nous dit, gardez-vous d'être troublés. Il faut que tout cela arrive. Nous sommes ses esclaves. C'est lui qui nous protège. Il est garant de notre vie et de notre mort. Donc nous ne devons plus avoir peur. Levons les yeux. Regardons vers le Seigneur qui vient. Les choses vont encore être plus terribles. Mais si nous avons les yeux sur lui, toutes les choses de la terre pâliront. Peu à peu, nous sommes vraiment à la fin des temps et nous voyons la bête qui s'installe progressivement. Son système est déjà en place aujourd'hui pour t'interdire de prendre ton argent, c'est facile. Pour t'interdire d'aller quelque part, c'est facile. Même de payer l'essence, c'est facile. On peut le faire, ça. Avant, il y a quelques années en arrière, on n'avait pas cette technologie, mais aujourd'hui, même on peut te suivre. Il suffit que tu aies ton téléphone portable sur toi. On peut te suivre. Ou bien, même si tu n'as pas ton téléphone portable, avec les caméras installées partout, on peut suivre certains de tes mouvements. Certains de tes mouvements. D'accord, mes frères et sœurs. Donc, la technologie est là. Il suffit que l'anti-messie, quand il prendra le pouvoir, ce sera une facilité. Mais comme je l'ai dit, il faut que tous les pays soient à terre, économiquement exsangues, financièrement et puis militairement aussi. Lui va apporter des solutions. Il sera d'abord un homme de paix. C'est ce que nous montre le cheval blanc avec quelqu'un qui a une couronne et qui ressemble étrangement au Messie avec un arc mais sans flèche. Vous voyez, il va venir en tant qu'homme de paix dans la séduction, ainsi de suite. Il aura un fusil mais pas de munitions. D'accord, mes frères et sœurs. Et cette bonne nouvelle-là, c'est aussi un signe du règne sera proclamé à haute voix dans le monde. Aujourd'hui, c'est fait. Il y a peu de peuples, peut-être le peuple andaman qui n'est pas encore atteint. Même les Papous ont reçu l'évangile. Même les Papous ont reçu l'évangile. Aux quatre coins du monde ont reçu l'évangile. D'accord? L'évangile est prêché un peu partout. Alors viendra la fin. Donc ça nous montre que nous sommes proche de la fin et nous sommes proches aussi de notre rassemblement avec Yeshua lorsqu'il paraîtra dans la Zer pour attirer tous ceux qui sont comme lui. Hein? Et il nous dit que l'affliction dans le verset 21 sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne sera sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et il a dit, par contre, quelque chose de très important, parce que chaque année, il y a des gens qui nous servent cela. Ah, Yeshua, j'ai fait le calcul, Yeshua va revenir, l'enlèvement aura lieu tel jour. Oh, je me suis trompé, il reste encore, c'est le mois prochain, c'est là. Beaucoup de gens ont fait des prédictions, des frères. Bon, voilà, mais ils ne sont même pas venus pour demander pardon. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est laissé à la discrétion du Père. Mais aujourd'hui, le Fils dans la gloire doit savoir. En tout cas, il sait maintenant, voilà. Mais peut-être que c'est nous qui ne sommes pas prêts. Et il nous donne encore du temps, il nous donne un temps de grâce. Pour que nous puissions faire le ménage dans notre vie, pour que nous puissions nous repentir. Je nous rappelle que les 10 vierges s'étaient quand même endormies, 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 hein, totalement endormies. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc, mes frères et sœurs, continuons de prier, de veiller. Hein. Peut-être qu'il va arriver un moment où il n'y aura plus de point de non-retour. Mes frères et sœurs, donc ne nous relâchons pas. Cette guerre qui vient, n'ayons pas peur. Quelle que soit son issue, n'ayons pas peur. Gardons-nous d'être troublés. Il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin, a dit la parole de Dieu. Soit que nous mourons, soit que nous vivons, nous sommes dans les mains du Seigneur. Que le Ténèbre Dieu nous bénisse et nous garde, parce que le Seigneur lui-même, il dit qu'il enverra ses anges avec le shofar retentissant et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. D'accord? Instruisez-vous avec une parabole tirée du figuier. Le figuier représente Israël. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est froid. Beaucoup de Juifs sont revenus à la Torah, au judaïsme, ainsi de suite. Et on n'a jamais autant parlé du Messie. Et lorsque la guerre de Russie-Ukraine est survenue, beaucoup de rabbins sont montés au créneau pour parler d'anciennes prophéties de certains rabbins sur la Russie. Donc nous voyons, il y a une effervescence messianique en Israël aujourd'hui. Oui, une effervescence messianique. Nous avons vu que les branches de figuier sont devenues tendres et les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche, voilà. Israël, il y a une effervescence messianique. Israël a retrouvé sa souveraineté. Israël est devenu une nation puissante au niveau militaire, agricole, technologique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de même que la parole de Dieu, ils sont revenus donc à la Torah, à l'enseignement de la Torah. Beaucoup, beaucoup font, se tournent vers la Torah, mais aussi beaucoup se convertissent, reconnaissent Yeshua comme le Messie. Voilà, donc il y a ça, les deux mouvements sont là. Beaucoup de Juifs reconnaissent Yeshua, même certains rabbins, même s'ils ne le disent pas, parce que ils ont peur, peut-être, ils ont peur, comme je vous l'avais dit la dernière fois, parce que ils disent que les gentils ont galvaudé le nom du Messie. Voilà, le nom du Messie. Donc, galvaudé. Donc, mes frères et sœurs, prions, 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 prions. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Yeshua ne passeront point. Mes frères et sœurs, tous ces gens-là qui négligent la parole de Dieu, qui veulent séparer la parole de Dieu, moi, je vous dis, la parole de Dieu est une. L'ancien et le nouveau et la nouvelle alliance ne font qu'une. C'est comme la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est deux, mais ces paroles sont une. Parce que si tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu aimes ton prochain, c'est parce que tu aimes Dieu. Tu aimeras Dieu. Donc voilà. Et c'est une. Cette parole est une. Voilà. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Dieu, l'Éternel Dieu aussi est un. L'Éternel Dieu est un. On a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, plusieurs dons et plusieurs ministères. Mais tout cela, c'est dans l'unité. Lorsque tous ces dons-là s'expriment, lorsque tous ces ministères sont actifs, mais l'Église retrouve son unité. Et puisque tous ces dons et ministères sont d'abord à Yeshua, c'est lui qui les donne, qui les a, et nous les distribue selon sa volonté. Et selon nos capacités également. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais simplement aborder ce thème avec vous pour que nos cœurs ne se troublent point. D'accord? Gardez-vous d'être troublé par cette guerre en Ukraine. Ça ne va pas déboucher sur la troisième guerre mondiale. Moi, c'est mon analyse, hein, parce que les nations ne sont pas prêtes au combat pour le moment. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen et amen. J'ai encore été un peu long. 1h02. Voilà, excusez-moi. Il y avait beaucoup de choses à dire. Amen et amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Et que Dieu vous comble au-delà de vos prières et de vos attentes. Vous qui prenez votre temps à m'écouter, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.